Donc là, on attaque un autre article du credo, c'est « Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur ». On ne les fera pas tous, comme je vous l'ai dit le premier jour, parce que c'est, il y a beaucoup de matière et on ne peut pas tout voir en 8 enseignements. Mais bon, on voit un certain nombre de choses évidemment fondamentales. Et là, on aborde la question du Christ. Du Christ qui est évidemment quelque chose qui est central dans notre vie chrétienne. Nous sommes les disciples de Jésus. Et donc, il y a plusieurs parties dans trois parties, si je me trompe. Pourquoi le Verbe s'est-il fait chair ? L'incarnation est vrai Dieu et vrai homme. Donc, c'est des choses qui sont un peu ardues, donc préparez-vous psychologiquement, parce que ce n'est pas simple. La relation entre l'humanité et la divinité dans le Christ est quelque chose d'un peu compliqué. Bon, ben voilà. Donc, du coup, mais ça demande un peu un travail de l'intelligence, justement, pour comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi le Verbe s'est-il fait chair ? Le Verbe s'est fait chair pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle. Pour remonter un petit peu en amont du Verbe s'est fait chair, la question de la Trinité. Parce que là, on rentre dans la question, on ne va pas voir toute la Trinité, mais bon, pourquoi est-ce que nous croyons dans la Trinité ? Vous pouvez me dire, parce que Jésus nous a manifesté, nous croyons en Jésus, que Jésus a manifesté le Père et a envoyé son Esprit. Mais si on croit en un Dieu amour, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que ce Dieu amour est en lui-même circulation de relations ? Que nous croyons en un Dieu qui est relation en lui-même ? Ce n'est pas une masse compacte qui serait au-dessus de nos têtes, mais nous croyons en un Dieu qui est relation. Et c'est intéressant de croire en un Dieu qui est relation, parce que nous aussi, nous sommes à l'image de Dieu, et nous sommes relation. Nous nous construisons dans la relation avec les autres. Et notre bonheur, c'est de rendre aussi les autres heureux. Et singulièrement, dans le mariage et la vie familiale, on essaie de rendre les autres heureux, et en ceci, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais d'un Dieu qui est relation, il a fallu donc le Dieu unique avec Abraham, mais avec le Christ, il nous a manifesté que Dieu n'était pas, il est unique, mais il n'est pas solitaire. Et ça, je pense que c'est intéressant de dire que c'est un Dieu personnel, le Père qui est créateur, le Fils, le Verbe de Dieu qui est rédempteur, et l'Esprit qui sanctifie. Donc, c'est intéressant de voir que et puis une autre chose intéressante dans la Trinité, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais dans la Trinité, et qui fait écho à ce que nous vivons aussi, à notre expérience personnelle, c'est que les personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit, partagent la même substance, la même nature, et en même temps sont très différentes. Les personnes divines sont plus différentes entre elles que nous ne sommes différents entre personnes humaines. Mais plus unis entre elles que nous ne le serons jamais entre personnes humaines. Ce qui veut dire que la différence, il y a de la différence, c'est ce qu'on appelle de l'altérité en Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas l'Esprit, etc. Il y a de l'altérité en Dieu, mais cette altérité ne s'oppose pas à la communion, au contraire, elle est source de communion. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est le fait qu'en Dieu, il y ait communion de personnes et que ces personnes-là soient distinctes. Il y a une altérité, il y a une différence. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Et encore une fois, parce que nous sommes dans la matière, nous sommes, j'allais dire, moins distincts les uns des autres que des réalités spirituelles qui ne sont pas ancrées dans la matière. Et donc, du coup, de voir que en la Trinité, il y a une circulation d'amour qui est permise par la différence des personnes. Pourquoi est-ce qu'on croit que Dieu est amour ? Parce que c'est les seuls les chrétiens qui croient ça, parce que le Christ a révélé ce qui était le mystère de Dieu, communion de personnes. Communion de personnes dans la différence des personnes. Et quelle est la réalité humaine ? Qui est aussi communion de personnes dans la différence des personnes. Hein? Le mariage. Le mariage. C'est pour ça que dans l'Église catholique, il n'y a pas de divorce. Parce que la communion en Dieu est de toujours à toujours. Et vous êtes signe d'une communion de personnes divines dans la différence des personnes, hommes-femmes. Donc c'est intéressant de voir que la Trinité est quelque chose de très essentiel dans notre vie de foi. Ah, c'est pas juste nous sommes les seuls, les chrétiens, à croire en la Trinité, qu'un Dieu est une communion de personnes. Les autres, les religions du livre, nous ne sommes pas une religion du livre. Je crois que c'est important de le dire. Nous ne sommes pas une religion du livre. Nous sommes une religion des personnes. Que ce soit la personne du Verbe, la personne du Christ, nous sommes une religion de personnes. Nous ne sommes pas simplement une religion d'écriture. Et en ce sens-là, les chrétiens sont très différents des autres qui professent aussi un Dieu unique. Et le mariage catholique est signe, justement, sacrement ça veut dire signe visible d'une grâce invisible, c'est ça que ça veut dire sacrement, signe visible d'une communion de personnes, et la communion en Dieu est altérité, comme la communion dans le mariage est altérité. Hommes et femmes. Et différence. Ça veut dire que la différence n'est pas une menace pour la communion, elle en est la condition. Je dis ça parce que parfois, en nous, on a cette tendance à voir la différence comme une menace. Il est autre que moi, attention. Il est autre que moi, dans le couple, dans homme-femme, mais dans sa manière de fonctionner, dans son rapport à sa famille, dans son rapport à l'argent, dans son rapport à la sexualité, dans son, etc., dans son rapport à l'éducation, il est autre que moi. Et il y a en nous un désir de vouloir rendre l'autre à notre image et ressemblance. J'aimerais que l'autre fonctionne comme moi. Or, dans la Trinité, c'est pas ça. On ne se marie pas avec un clone. On se marie avec quelqu'un de différent. Parce que Dieu en lui-même est différence. Dieu en lui-même est altérité et autre. Et en même temps, tellement différents, ces personnes divines sont vraiment différentes les unes des autres et en même temps partagent la même substance, hein, consubstantielle au Père, on dit la même... C'est plus que nature, hein, parce que alors, ça nous entraîne dans la philosophie. C'est ça la richesse, je trouve, de la foi catholique. C'est qu'elle a fait, la foi catholique a fait sienne la philosophie grecque. Et dans la philosophie grecque, il y a des outils intellectuels, comme par exemple la notion de personne, nous viennent de la philosophie grecque, comme la notion de substance, comme la notion de nature. Nous sommes de même nature humaine, tous ceux qui sommes ici, sauf mademoiselle qui est de nature animale bovine, voilà, bon, mais voilà, c'est pas, mais nous sommes de nature humaine, mais nous ne sommes pas de la même substance. Notre être profond nous est unique. En Dieu, il partage la même substance et avec des personnes différentes. Donc c'est vraiment un mystère. C'est à la fois, c'est pas un Dieu partagé en trois, c'est pas un camembert partagé en trois, la Trinité. Pas du tout. Chacun est la totalité de la divinité. Mais chacun exprime la divinité de façon unique. Donc ça intéresse de méditer sur la Trinité, c'est vraiment, je trouve, il y a des conséquences absolument considérables pour notre vie chrétienne. Je veux dire, habituelle, commune. Nous croyons en un Dieu qui est amour, mais pas un Dieu qui est unique, mais pas solitaire, un Dieu qui est communion de personnes, et Jésus nous révèle ce Dieu qui est communion de personnes. Sinon, pourquoi croire en un Dieu qui est amour? Si personne du sein du Père, c'est-à-dire de l'intérieur même de Dieu, nous révèle qui il est. Pourquoi croire qu'il est amour? Il est créateur, on peut croire qu'il est bienveillant, mais nous sommes poussés à nous aimer et à aimer parce que nous sommes image de la ressemblance d'un Dieu qui est amour. Sinon, pourquoi est-ce qu'on s'aimerait? À moins que ce soit inscrit à l'intérieur même, au plus profond de nous-mêmes, dans cette image, hein, qui est indélébile, que Dieu a creusée dans notre personne. Nous sommes à cette image de cette communion. C'est toujours bien de refaire mémoire de ça, de la Trinité, de la communion des personnes divines. Et donc le Verbe s'est fait chair. Pourquoi est-ce que le Verbe s'est fait chair? Il s'est fait chair pour que nous connaissions l'amour de Dieu. Pour que quelqu'un devait nous révéler qui est Dieu. Alors il a été déjà révélé dans l'Ancienne Alliance, par les prophètes, etc. Ils nous ont dit quelque chose de Dieu. Mais est-ce que quelqu'un qui vient de Dieu lui-même ne peut pas, n'est pas le plus à même de nous révéler qui est Dieu? Et nous croyons que le Christ, le Verbe de Dieu, le Verbe, c'est-à-dire celui qui dit Dieu, en une seule parole, en un seul verbe, Dieu se dit tout entier. Et c'est le Christ qui a pris notre nature humaine. C'est important que le Christ n'est pas personne humaine, mais personne divine qui a pris notre nature humaine. Pourquoi c'est important d'après vous? Le Christ n'est pas personne humaine. On est bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine qui a pris notre nature humaine. Pourquoi c'est important? Parce que il y a la question du péché originel et puis il y a la question liée à ça aussi, le salut. S'il était personne humaine, comme nous, ben, il serait marqué par le péché, par la génération, etc. Mais surtout qu'il ne pourrait offrir un salut même pas pour lui-même, parce que des personnes qui se sont offertes comme le Christ en sacrifice, etc., pour différentes causes, il y en a beaucoup. Des personnes qui ont souffert plus que le Christ, il y en a beaucoup. Mais ces personnes-là, ni elles-mêmes, elles peuvent se sauver. Il faut bien ce contact. Le salut, il vient de l'extérieur, c'est-à-dire d'un Dieu, mais aussi de l'intérieur, de la nature humaine, c'est-à-dire de ce contact entre la nature humaine et la nature divine qui permet que ce que vit le Christ concerne toute l'humanité, non pas simplement lui-même. Alors ce que nous vivons nous-mêmes nous concerne nous-mêmes, mais sauf si nous sommes liés au Christ, du coup, ça. Mais le Christ lui-même, par cette unité de la nature humaine, la nature divine, offre un salut à tout le genre humain. Alors que s'il était simplement de nature humaine, personne humaine, bon, ce serait un exemple admirable, comme il en existe d'autres à travers l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui se sont offerts pour des causes, etc. Mais ils ne se sauvent ni eux-mêmes. C'est parce qu'il est un Dieu qui a pris cette conjonction des dieux permet un salut pour le genre humain. Oui. Oui, mais on comprend le péché d'Adam à partir de la. On comprend le péché. Donc la question c'est, Adam a fait rentrer le péché alors qu'il n'était pas Dieu. Oui, mais le péché vient par génération, c'est-à-dire qu'il a, par ça, on verra le péché originel de plus tard, mais par la coupure d'avec Dieu, par cette méfiance d'avec Dieu envers la parole de Dieu, il y a eu une rupture dans l'humanité. Il y a eu une épreuve, il y a eu une rupture, ça, on verra ça un peu plus tard, mais. Et du coup, on comprend Adam à partir du Christ, c'est-à-dire le Christ vient reprendre tout le genre humain et le ramener dans le sein du Père, reprend jusqu'au premier Adam. C'est le nouvel, ce qu'on appelle, vous entendrez cette expression, du nouvel Adam. Ce quelque part, pour transmettre le mal, il ne faut pas être Dieu, mais pour changer, pour sauver tout le monde, il faut être Dieu. C'est pas pareil. Quelque part, pour transmettre le mal, malheureusement, on voit bien qu'on est très, très à même à le faire, sans être Dieu nous-mêmes. Mais pour sauver tout un genre humain, ça, c'est en dehors de notre portée. C'est pour ça que nous croyons que le Christ est le vrai sauveur et que premièrement, que nous avons besoin d'être sauvés. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça, même pour des catholiques pratiquants. Posez-vous la question, en quoi j'ai besoin d'être sauvé? Et puis, autre question, qui est peut-être plus facile, en quoi notre couple a besoin d'être sauvé? Qu'est-ce qui vient sauver votre couple? Comment s'applique le salut à votre couple? Vous savez, vous l'avez dit le jour J. Comment? Non. Comment s'applique le salut à votre couple? C'est quoi? Par quel moyen s'applique le salut à votre couple? Au moment de c'est le sacrement du mariage. Les sacrements sont toujours les sacrements du salut. Pourquoi est-ce que je me marie à l'église? Pour supplier le salut pour notre couple. Salut pour qu'il ne s'enferme pas sur lui-même, salut pour qu'il reste dans une fluidité de relation et non pas d'une séparation, etc., etc. Salut pour qu'il n'y ait pas une domination de l'un sur l'autre. On a besoin d'être sauvés. Et le sacrement du mariage, c'est le salut que Jésus nous apporte appliqué au couple. De même que le sacrement de la réconciliation, la confession et le salut appliqué aux pécheurs, de même que le sacrement du malade et le salut appliqué aux malades, etc. Les sacrements sont toujours les sacrements du salut. Mais est-ce qu'on prend conscience qu'on a besoin d'être sauvé? Oui. Est moins présente. Pour beaucoup de nos contemporains, besoin d'être sauvé, ça n'évoque pas grand-chose. Mais quand on rentre dans une intimité avec le Seigneur, eh bien on sent qu'on a besoin d'être sauvé. On a besoin On ne s'en sortira pas tout seul, mes amis. On ne s'en sortira pas tout seul. Parfois, des grandes tragédies, des grandes souffrances nous permettent de reprendre conscience que oui, ah bah oui, là, si Dieu ne vient pas nous sauver, on est foutu, quoi. On est complètement à la ramasse, quoi. Mais quelque part, c'est vrai, là, ce que vous dites, Xavier, c'est vrai. Non. Mais je veux dire, c'est vrai tout le temps, sans attendre des grandes tragédies, des grandes blessures, je sais pas quoi, d'infidélité, de quoi qu'est-ce, voilà, de violence familiale, parfois des grandes secousses, il y a des grandes. La famille est secouée. Hein, vos familles nucléaires, c'est vos parents, vos frères et sœurs, etc., votre couple, votre propre famille, et parfois. Et c'est pour ça que c'est parfois salutaire. Hein, c'est le fait de faire l'expérience du mal dans notre couple ou dans notre famille, alors on ne va pas le provoquer, bien sûr, mais le fait de faire cette expérience ou de toucher, nous fait prendre conscience qu'on ne s'en sortira pas tout seul. Et qu'il nous faut la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu qui nous est venue par le Christ. Et dès que je suis en contact avec le Christ, comme on l'a vu ce matin, quels sont les canaux de la grâce de Dieu, dit d'une autre manière, quelles sont les manières d'être en contact avec le Christ, exactement pareil. La question est posée différemment. On a vu là, les sacrements, la parole, la communauté chrétienne, ce sont des manières dont des moyens par lesquels le Christ nous rejoint, avec lesquels lequel nous sommes en contact pour être sauvés. Et c'est vraiment capital, cette histoire. Sinon, on ne comprend rien au mystère du Christ si on ne comprend pas le mystère du salut. Et donc notre péché, et donc notre éloignement de Dieu, et qui remonte jusqu'au premier Adam, il y a une épreuve, hein, on verra ça, qui fait qu'on s'est séparés. Et que cette épreuve-là, on la sent bien en nous-mêmes. Je me souviens de quelqu'un qui disait, je crois pas en Dieu, mais je crois au péché originel. C'est un petit peu étonnant, dit comme ça. Il suffit que j'ouvre la télé, la radio, etc. Bon, pour voir le mal à l'œuvre, malheureusement, dans le monde. Mais nous croyons en une personne qui a mis un terme à ce mal. Le chrétien est le seul qui croit que le mal a un terme, a une fin. Par la résurrection du Christ, par la rédemption, le rachat de nos péchés, le fait de nous sauver par l'offrande de sa vie, hein, met un terme au mal. Et donc, si on voit que le mal triomphe en nous-mêmes, ou dans nos familles, ou dans nos. Quelle est l'attitude à avoir, si ce n'est se mettre en contact avec le Seigneur? J'aime bien la vie, Jésus qui va chez Simon le pharisien, vous vous rappelez ce passage, hein, et il y a une femme pécheresse, on dit c'est peut-être Marie-Madeleine, etc. Pourquoi pas? En tout cas, c'est une femme assez affective, semble-t-il, et du coup, qui baigne de ses larmes, j'allais dire, les pieds de Jésus, qui essuie les pieds avec ses cheveux, qui verse un parfum, etc. Elle met en contact avec le Christ, tout ce qui lui a servi à égarer les hommes, que ce soit les cheveux, le parfum, le regard, voilà. Elle le met en contact pour être sauvée. Et comment est-ce que nous, on met en contact, on n'a pas le Jésus avec ses pieds, avec ses mains, de ses cheveux, mais comment est-ce qu'on met en contact, sinon, dans l'Église, il y a un contact qui est mis, qui est pris, là, on met en contact, dans les sacrements. Dans la parole, dans la communauté, on met en contact notre vie avec le Christ et on lui demande de nous sauver. Et en même temps, le mal continue dans le monde parce que nous ne sommes pas à la fin des temps. On verra ça à la fin des temps. Là, nous ne sommes pas. C'est un grand mystère, le mal. Hein. C'est pourquoi est-ce que c'était un peu votre question? Pourquoi est-ce que le mal, du temps de Jésus, le mal a continué? Nous croyons qu'il faudra simplement la fin des temps, c'est-à-dire où Dieu règne tout en tous pour que l'amour de Dieu triomphe en tout. En attendant, nous sommes en chemin. En attendant, nous sommes des pèlerins. Mais nous avons un regard sur le mal qui est différent des autres. Et c'est la grande force des chrétiens. Dieu permet le mal pour éprouver notre foi, c'est ce que vous dites.
Parce qu'à la fin,
Oui.
même un dialogue entre Dieu et Satan dans sa
Oui, 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 euh, oui, oui. Oui.
Cette affirmation me choquait, je sais pas si.
Oui, ben, Dieu permet le mal. On le voit, c'est. Et pour en sortir un bien, c'est ce que nous croyons, mais. Ça reste quand même un mystère, ce qu'on appelle le mystère d'iniquité, c'est-à-dire comment le mystère du mal continue d'agir dans le monde avec autant de puissance alors que le Christ est ressuscité. C'est quand même une question. On ne peut pas ne pas se poser la question. Alors, à cette question, nous avons la réponse de dire que déjà, c'est avec la. Nous ne croyons pas en un Dieu du bien et un Dieu du mal, nous ne croyons pas en ça. Nous croyons en un Dieu unique. Et nous croyons qu'il y a Satan qui s'oppose à Dieu, qui a été mis à l'épreuve aussi pour accueillir le don de Dieu et qui ne l'a pas accueilli, qui s'oppose au plan de Dieu et à l'amour de Dieu et qui veut. Et Satan, ben voilà, est encore agissant dans ce monde. Mais nous croyons que ce sera dans l'autre monde, dans la vie éternelle, que Dieu régnera tout en tous, sera tout en tous. Et qu'en attendant, ce mal-là, nous pouvons le mettre en. Si nous nous mettons en communion, en contact avec le Christ, nous croyons que. De ce mal-là peut surgir un bien. Pas de par soi, parce que le mal est un mal, la maladie est à combattre, l'injustice est à combattre, etc. Mais il y a des choses qu'on ne choisit pas, Mais qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu trouves mal en toi ou autour de toi? Est-ce que tu le mets en contact avec le Christ ou tu restes seul à te débattre avec tes petits points? Bah, disons, c'est pas que nous a permis, c'est que c'est pas Satan qui permet au Christ, c'est plutôt l'inverse, mais c'est-à-dire que c'est ce que dit la phrase bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Quelque part, on découvre à travers le péché des hommes comme une rédemption encore plus grande, comme un amour de Dieu qui se surpasse, qui se révèle en Jésus. Que vous voulez dire? Ça peut éloigner, et le mal peut faire un bien. Ce n'est pas automatique. De sa nature, le mal ne peut pas, n'est pas ordonné au bien par définition. Quoi. Donc, mais il faut, si je mets ça en contact avec le Seigneur, si je l'unis à la passion du Christ, si je le mets, eh bien il y a quelque chose de fort qui peut sortir de ça. Et des personnes qui ont connu des grands moments de souffrance, des grands moments d'injustice, etc., mais qui ont vécu ça comme hommes et femmes de foi, eh bien, ils ont été des grands témoins. C'est là où je trouve que le Christ vient vraiment éclairer toute notre humanité, jusque dans, en prenant sur lui le mal. Et ça aussi, c'est unique. Il n'y a que les chrétiens qui croient ça. Qu'un Dieu qui prend sur lui le mal. C'est énorme. On n'y est pour rien, quoi? On n'y est pour rien, quoi? Isabelle me fait marrer. On n'y est pour rien. Ah, mais je suis original, on n'y est pour rien. Oui, d'accord, mais bon, on est dans la nature humaine et quelque part, il n'y aurait pas eu... Bienheureuse faute qui nous va. C'est à partir de la rédemption, à partir du salut qu'on comprend le péché. C'est pas à partir du péché qu'on comprend le péché. Donc c'est à partir de comment, au fond, il y a une grâce qui nous a. Il y a une raison comme ça qui dit que Dieu qui nous a merveilleusement créés, mais qui nous a encore plus merveilleusement rachetés. Quelque part, notre communion avec Dieu à cause du Christ est plus grande s'il n'y a. Après le péché originel qu'avant. Avant, on était comme amis de Dieu. Le Christ nous a pris en lui-même. Par notre nature humaine, on est des fils et filles adoptifs. Et donc, du coup, on est en communion avec Dieu. On est participant de sa nature divine, ce que n'était pas l'Adam avant le péché. Il n'était pas participant de la nature divine. Il était en amitié. C'est Adam qui se réveille là. Voilà, donc c'est intéressant. Pourquoi le Verbe s'est fait chair? Pour que nous connaissions l'amour de Dieu. Sinon, comment le connaître si personne ne vient de Dieu pour nous le manifester? Quelle est la différence entre les chrétiens et les autres, et les autres religions? Dans les autres religions, ils ont voulu, religion, ça veut dire religare en latin, ça veut dire relier. On a soif de relier l'homme à Dieu, c'est très bien, de créer un pont qui amène vers Dieu quelque part. Bon, c'est les différentes religions qui existent sur Terre, très bien. Mais la religion chrétienne, c'est pas du tout ça. La religion chrétienne, c'est, il y en a un qui a dit, moi, je suis le pont. C'est pas qu'il a créé un pont pour aller vers Dieu. Il a dit à un moment donné, moi, je suis le pont. Peut-être on pourrait aller voir à côté pour qu'ils arrêtent les billes, c'est possible. Oh, c'est pas le mauvais, non. Pas le mauvais partout. L'esprit frappeur, c'est ça. Il a dit, moi, je suis le pont. Il ne s'agit pas de construire un pont pour aller vers Dieu, c'est moi le pont. Alors soit on croit, soit on ne croit pas. Et pourquoi on croirait? Sa parole, qui vit, nul homme n'a parlé comme cet homme, ses actes, l'offrande de sa vie. Et puis la grâce qui nous fait accéder. Hein. On voit même du temps de Jésus, hein, en sa passion, vous pouvez relire la passion, je trouve que ce serait intéressant, de voir comment le centurion romain païen, hein, vraiment, cet homme était le fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu, c'est pas fils comme vous avez des fils, hein, c'est pas, il est de nature divine, il est vraiment Dieu. Il y a comme une révélation. La passion du Christ, elle est à la fois scandale et à la fois salut. Elle est à la fois ténèbre, parce qu'il y a beaucoup de ténèbres dans la passion du Christ, et à la fois lumière. Tout dépend du côté où on la prend. Si on est dans une démarche simplement humaine, on dit ben, pourquoi cet homme-là crucifié, vous en faites l'emblème de votre religion, c'est un peu spécial, c'est un peu curieux quand même de voir des crucifiés alors que c'est un instrument de torture, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas être, nous croyons ce qui est fou aux yeux du monde et sage aux yeux de Dieu. Que la passion est folie de Dieu et plus sage que la sagesse des hommes. Donc c'est beau de voir ça, c'est de contempler que Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Je crois en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et du coup j'ai accès à la vie éternelle, parce que de ma propre volonté, je ne peux pas avoir accès à la vie éternelle, il faut que ce soit donné. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y avait le monde, le Sheol, c'est-à-dire le monde des morts. On allait au monde des morts, mais ce n'était pas la vie éternelle. Ce n'était pas cette communion avec Dieu, parce qu'il y avait comme une séparation d'avec Dieu qui nous empêchait d'aller vers lui. Le Verbe s'est fait chair pour être notre modèle de sainteté. Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi. Je suis la voie, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et le Père, sur la montagne de la Transfiguration, ordonne « Écoutez-le ». Il est en effet le modèle des béatitudes et la norme de la loi nouvelle « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Cet amour implique l'offrande effective de soi-même à sa suite. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de sa nature divine. Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, c'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. C'est Saint Athanase. Car le Fils de Dieu s'est fait fils de l'homme pour nous faire Dieu. Voilà, c'est cet échange, c'est ce qu'on appelle l'échange admirable, hein, qu'on fête le jour de Noël. Dieu a pris notre nature pour que nous devenions participants de sa nature. Donc, la nature humaine est élevée à un tel grade de dignité avec le Christ, absolument inaccessible, disons, qu'aucune religion ne présente comme ça. Aucune religion ne se présentera comme donnant une participation à la nature divine. Et donc, une dignité donnée à la nature humaine. Donc, je trouve ça beau, justement, de dire c'est notre modèle de sainteté. Donc, nous sommes les disciples du Christ. Qu'est-ce que le Christ a fait? Ben, voilà, j'essaie de l'imiter. Nous sommes les imitateurs du Christ. Le Christ, notre modèle. Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que lui, fait homme, fît les hommes Dieu. Voilà, ça c'est des citations de Pères de l'Église. Ça vous en retrouverez à l'appel, que si vous étudiez les Pères de l'Église. Nous sommes participants de cette nature divine. Nous ne sommes pas simplement, comme l'ancien Adam, en amitié avec Dieu. Nous sommes, il y a quelque chose de la nature de Dieu qui habite en nous. Oui. Alors, les anges, non. Les anges, alors, comment se passent les anges par rapport à ça? Les anges, alors, vous irez voir Isabelle pour un témoignage en direct sur les anges. Donc, je parle sous contrôle. Mais bon, toujours est-il, les anges, non. Les anges ne sont pas des personnes d'abord, n'est personne que Dieu ou l'homme et la femme. C'est des êtres spirituels, mais c'est pas, ils n'ont pas la qualification de personne. Les anges, donc c'est intéressant de voir, c'est des êtres spirituels, et pour les anges, il n'y a pas de salut. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une épreuve. J'allais dire, c'est la tradition qui nous rapporte ça, vous ne le trouverez pas dans l'Écriture, mais ce n'est pas complètement inintéressant de penser que l'Écriture nous rapporte une épreuve qu'il y a eu pour Adam et Ève de confiance envers Dieu et envers sa parole. Tu ne toucheras pas au fruit de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire tu recevras le bien et le mal de moi et non pas que ce soit toi qui le fabrique, c'est ce que ça veut dire. Tu ne toucheras pas. On suppose, en tout cas la tradition nous rapporte, qu'il y a eu certainement une épreuve pour les anges. Et quelle est cette épreuve pour les anges, si ce n'est par rapport à ce mystère de l'incarnation ? Est-ce que vous accueillez cette manière dont Dieu veut s'abaisser jusqu'à prendre la nature humaine ? Parce qu'entre un ange et une nature humaine, il y a un abîme, c'est abyssal. La nature angélique est d'une perfection dont on n'a même pas une pâle idée. Et en même temps, si Dieu est créateur, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas créé des natures simplement spirituelles ? C'est pas complètement aberrant de le penser. Donc, ces natures spirituelles ont été aussi mises à l'épreuve comme nous. Et la tradition rapporte, assez ancienne, qu'il y aurait eu ces face au mystère de l'incarnation. Face au mystère. Et les anges n'ont pas la participation à la nature divine. Il n'y a que l'homme et la femme qui ont participé. Parce qu'ils ont expérimenté la miséricorde. Pourquoi il n'y a pas de miséricorde pour l'ange ? Parce que l'ange voit jusqu'aux dernières conséquences de ses actes. Il n'est pas ancré dans la matière. Et donc du coup, il voit jusqu'aux dernières conséquences de ses actes. Et donc, il y a eu comme un acharnement de certains anges face à la nature de Dieu, au plan de Dieu d'amour, de se prendre notre nature humaine. Il y a eu un acharnement et du coup, ce rejet de Dieu qu'on appelle l'enfer. L'enfer, c'est préférer être loin de Dieu que de dépendre de son amour. Il en faut. On ne va pas en enfer qui veut. Je veux dire, quelque part, l'Église dit simplement Satan et ses anges sont en enfer, mais ne dit aucune personne humaine. Il faut connaître Dieu, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie connaissance de Dieu et connaissant Dieu, lutter contre lui. C'est pas le premier venu qui va faire ça. Mais en même temps, c'est une réelle possibilité qui a été offerte aux anges qui ont connu Dieu face à face et certains ont préféré lutter contre lui. On voit dans le mystère de l'Apocalypse, par exemple, ça c'est quelque chose qui est assez, assez fort, justement de voir qu'il y a eu un combat spirituel entre Satan et Dieu. Et la tradition rapporte le non serviam de Lucifer. Lucifer, celui qui porte la lumière, Lucifere, c'est ça en latin, celui qui porte la lumière, cette splendeur de Dieu spirituel, mais qui s'est enorgueilli de lui-même, qui s'est repu de lui-même, de sa propre beauté, de sa propre grandeur, refusant ce plan d'incarnation de Dieu, refusant cet abaissement. Je ne servirai pas ça. Je préfère être loin de Dieu que de dépendre de son amour, qui s'abaisse à ce point-là. Donc il n'y a pas de salut pour les anges. Mais pour nous, hommes et femmes, personnes humaines, il y a un salut parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, grosso modo. Et donc, du coup, pour ça que on veut faire le bien. Et puis finalement, il y a un autre truc qui sort, et puis c'est pas vraiment le bien qui arrive, et puis alors qu'on avait des bonnes intentions, et puis ça tourne complètement au rebours de tout, et puis ça ne même pas ta qu'est-ce qu'on pas possible, pourquoi dans la famille, par exemple, c'est de l'expérience commune, quoi. Mais c'est pas ça que je voulais faire, je voulais pas faire ça, etc. Oui, d'accord, mais entre-temps, la personne a été blessée, parce que peut-être elle est hyper susceptible, parce que j'en sais rien, comme dit l'apôtre Saint Paul, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. L'ange ne peut pas dire ça. L'ange ne peut pas dire « je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne vis pas. Je ne veux pas. » Seule la personne humaine peut dire ça. On ne sait pas. Ça reste dans le mystère de Dieu. C'est cet éloignement de... On ne sait pas. Mieux vaut pour lui qu'il n'ait pas existé. Bon, mais il a connu Dieu dans la foi et non pas dans la vision, comme les anges. Les anges sont dans la vision, c'est différent de nous. Ils sont dans le face-à-face, les anges. Ils ne sont pas dans la foi. Ah oui. D'accord, Isabelle. Donc, ils ne sont pas dans la foi. Donc, du coup, non, mais... non, mais en direct, c'est câblé, là. Elle branche le câble Internet, là, hop, direct sur les anges. Ils sont pas dans la foi, ils ne sont pas dans l'espérance. Ils peuvent être dans la charité s'ils sont dans l'obéissance à Dieu, dans la communion avec Dieu, comme nous aussi, quelque part. Si on obéit à Dieu, on est dans la charité. Mais on peut s'y opposer. C'est une possibilité qui est offerte à la personne humaine de vouloir le nier Dieu, le connaissant, et donc ce qu'on appelle la damnation. Mais bon, alors on continue. L'incarnation. Donc la question, la participation à la nature divine, je trouve ça très beau, ça, c'est de dire qu'on a quelque chose de Dieu en nous, on a une étincelle, on l'exprime comme on peut, en balbutiant, mais on participe à quelque chose de Dieu. On n'est pas simplement. Voilà. Et ça n'aurait pas été possible avec l'incarnation, avec le Christ. Sans le Christ, ça n'aurait pas été possible. Reprenant l'expression de Saint Jean, le Verbe s'est pécheur, l'Église appelle incarnation le fait que le Fils de Dieu ait assumé notre nature humaine pour accomplir en elle notre salut. La foi en l'incarnation véritable du Fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chrétienne. Assessie, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Voilà, celui qui confesse que le Christ est de Dieu, celui-là est né de l'Esprit de Dieu, hein, et celui-là a reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est assez intéressant, quels sont les premiers témoignages de la divinité du Christ dans les évangiles? Qui, les premiers, rendent compte de la divinité du Christ dans les évangiles? Les satans, c'est étonnant. Par les possédés, vous verrez vous reprenez l'évangile. Es-tu venu pour nous perdre? Dans les évangiles, c'est très clair. C'est ceux qui sont possédés, c'est-à-dire qui viennent. Nous savons bien qui tu es le saint de Dieu. Parlant par le possédé, en tout cas, ils disent ça. Voilà, sort de cet homme. Je vous renvoie aux évangiles. C'est assez intéressant de voir que les premiers à confesser la divinité du Christ, et on comprend pourquoi, ce sont les satans, les hommes qui eux-mêmes sont possédés. Donc du coup, ce sont eux-mêmes qui confessent la divinité du Christ. C'est, disons, le fait de cette possession qui leur permet de, pas en tant que personne humaine, mais en tant que possédé. C'est intéressant de voir, ce sont eux qui confessent la divinité du Christ. Avant Pierre, je sais qui tu es, le Fils de Dieu, etc., etc. La confession de Pierre. Avant ça, eh bien, c'est les satans qui ont confessé le Christ dans sa divinité. Hop. Alors, vrai Dieu et vrai homme. Alors, je vous laisse lire, parce qu'en fait, c'est un peu, je veux pas dire, dans l'histoire de l'Église, il y a tout eu un pataquès autour de vrai Dieu et vrai homme. Et toutes les hérésies qui ont eu dans l'histoire de l'Église, c'est autour de ça. Et de tenir les deux, c'est pas simple. Et vraiment l'humanité, et vraiment la divinité. Et donc il y en avait un qui disait, mais non, Arius, etc., mais non, c'est simplement une nature humaine, etc., c'est simplement un prophète. Et l'autre dit, non, ce n'était pas vraiment une personne humaine, c'est un faux corps humain, etc. Et vous avez les deux, et vous avez, bon, je vous laisse lire. Et donc, pourquoi les conciles ont, surtout au début du christianisme, le travail des conciles, ça a été d'élucider ça. Vrai Dieu et vrai homme, véritablement de nature divine et véritablement de nature humaine, portée par la personne du Verbe. Hein, donc ça a été toute cette... Je vous laisse lire, parce que c'est... Et donc le concile de Nicée-Constantinople, dont on prit le credo, vous vous rappelez, le credo long, par rapport au credo court, donc, pour vous faire la différence, le credo long, c'est le credo ce qu'on appelle de Nicée-Constantinople, qui est un concile, parce qu'il a fallu élucider les choses, lumière de la lumière, vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même consubstantialem patris, de même substance que le Père, voilà du coup, parce qu'il a fallu, il y a eu à travailler, l'Église a été travaillée par des courants très, très contraires par rapport à la divinité, à l'humanité du Christ. Et j'allais dire, ça continue de façon différente. Aujourd'hui, c'est moins, carrément, on se mettait dessus à cause de, dans les conciles, ils sont poignés, les pères conciliaires, tu crois, non, c'était assez violent. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est plus... En revanche, je trouve ce qui reste encore aujourd'hui comme trace de ça, c'est dans les fidèles, parfois une excessive spiritualisation et une moins grande prise en compte de leur humanité. C'était, ou l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas facile de mettre un curseur qui soit à la fois respecte notre humanité et à la fois respecte la grâce de Dieu. Et donc on voit des personnes qui partent dans une forme de grande spiritualisation, mais au détriment, j'allais dire, de leur personne humaine, voire du bon sens, tout simplement. Mais non, c'est Dieu qui me le demande, etc. Pourquoi pas, mais ça demande un discernement. Hein. Ou des personnes qui restent à un état simplement, on a vu avec la dimension plus sociale de l'Église, simplement humain, sans tenir compte de la soif de Dieu dans la personne humaine. Donc ça se traduit aujourd'hui plutôt comme ça, je veux dire, plutôt que aujourd'hui le sujet n'est pas... C'est rare qu'il y ait des divorces sur la question de la personne, la dimension de la nature humaine et divine dans le Christ. Bon, ça, j'ai encore vu ça, mais en revanche, il y a vraiment parfois quelque chose qui n'est pas en place au niveau de la véritable humanité. Il y a véritablement humain, véritablement divin. C'est pas facile d'être bien sur ces deux pieds-là. Donc vous lirez ça un peu de votre côté. Oui. Alors, avec les orthodoxes, on est vraiment dans la même ligne, dans le sens où c'est ce qu'on appelle la succession apostolique depuis le Christ jusqu'à maintenant. Il y a eu la succession des évêques, etc., etc. Il y a eu dans l'orthodoxie mais des choses qui ont été faites, qui parfois on sert, parce que c'est plutôt des questions politiques. C'est-à-dire que, grosso modo, on ne voulait pas dépendre du pape. Donc du coup, il y a eu le grand schisme d'Orient, hein, aux alentours de l'an 1000, qui a refusé l'autorité du pape, du successeur de Pierre, et du coup qui a prétexté des aspects théologiques, dont un aspect théologique, mais qui ne va pas vous empêcher de dormir, c'est est-ce que l'Esprit est venu du Père et du Fils ou du Père par le Fils? Ah, mais au secours, je veux dire, mais stop. Ils ont les sept sacrements comme nous, ils ont avec leur propre modalité de liturgie, etc. Mais dans la liturgie catholique, vous savez qu'il n'y a pas que la liturgie romaine, il y a la liturgie orientale, etc. Bon, c'est grosso modo, je préfère être le premier dans mon village que le deuxième à Rome, quoi. C'était ça le problème. C'était qui veut être le patron, quoi. Et donc, c'est des questions plus politiques qu'autre chose. Donc, du coup, on a dit, mais non, c'est comme avec les Anglicans, c'est une question un peu de braguette. Voilà, c'est Henri VIII qui voulait faire reconnaître son divorce, etc. Voilà. Bon, et le pape a dit non, il dit, bah, maintenant, c'est moi le pape. Bon, bah, d'accord. C'est un peu léger, quoi. Mais du coup, donc avec les orthodoxes, il y a les questions sont plus politiques que spirituelles, avec une véritable école de sainteté, avec les sacrements, avec leur liturgie propre, leur richesse. C'est le pape Jean-Paul II qui est un slave aussi, il connaît bien ce monde orthodoxe, et il disait que c'est les deux poumons de l'Église, le côté oriental et occidental. Et c'est vrai que bon, il y a eu cette rencontre avec le patriarche Kirill, le patriarche de Moscou, qui est la plus grande église orthodoxe au monde, avec à peu près une centaine de millions de fidèles. Mais lui-même est traversé par des tensions. Et puis aussi, l'église catholique n'a pas été non plus très délicate avec la question des uniates. Vous connaissez les uniates en Ukraine ? Les uniates, où on a voulu, hop, vous rentrez chez nous. C'est-à-dire que on a voulu, ben ouais, non, on va rentrer dans l'église catholique, etc. Du coup, ils ont toujours peur, les autres, parce qu'en face d'eux, il y a une église catholique qui a 1,5 milliard de personnes. C'est sûr, eux, ils sont 100 millions, donc bon, ouais, pff, le gros truc en face d'eux. Du coup, et puis, parfois, il y a un manque de délicatesse de vouloir aussi pécher. Voilà, on est la vraie religion parce qu'on a les plus fortes statistiques, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est humain. Et c'est arrivé. Et donc, du coup, avec la question des uniates en Ukraine, où justement on a voulu récupérer un certain nombre de... et Jean-Paul II a créé des diocèses catholiques à l'intérieur même des diocèses orthodoxes. Alors là, ça n'a pas aidé, quoi. Mais ce n'était pas la bonne personne, à mon avis, pour gérer les liens avec l'orthodoxie. Du coup, il n'y a jamais eu de... Le pape n'a jamais été invité en Russie, par exemple. Jamais. Bon, ça c'est là. La division, le mal qui est à l'œuvre aussi dans les chrétiens, et dont aussi nous catholiques, nous avons une partie prenante. Mais sur le papier, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre les deux, quoi. Il faudra demander au Seigneur qui nous aide. Alors, je pense que le pape François peut faire plus, parce que justement, il est d'origine complètement... L'Amérique latine, ça n'a rien à voir avec l'orthodoxie, avec bon donc. Mais bon, c'est. Il y a le passé, c'est pour ça la question des schismes et des séparations. Et donc la décision du pape Benoît XVI, bon, du pape Benoît XVI de réintégrer quelque part le rite extraordinaire dans l'Église catholique, parce que les schismes, quand ils s'installent, mais ils s'installent pour de bon, quoi. Ça fait 1000 ans, hein. C'est un peu longué quand même. Hein. Donc, oui.
J'avais entendu dire au lieu d'un article que le responsable orthodoxe était très heureux quand justement l'Église catholique romaine a sorti le catéchisme de l'Église catholique qui redit bien les choses suivant, parce que chez eux, il a fait du mal de
Déjà, entre orthodoxes, c'est très compliqué. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi, bon, c'est un peu technique, le concile panorthodoxe qui s'est tenu, je pense, en 2015, qui réunit. Mais qui invite au concile ? Il y en a qui sont... Le patriarcat de Moscou n'est pas venu. Parce que c'est le patriarcat de Constantinople qui est le premier patriarcat et donc qui peut inviter. Mais il y en a qui ne sont pas venus. Entre orthodoxes. Et donc, bon, les pauvres fidèles là-dedans, je pense qu'ils peuvent... Bon, ils sont nés dans des pays orthodoxes, voilà, mais bon, ils sont profondément... Et puis, il y a des vrais saints aussi dans l'orthodoxie. Comme je pense aussi, il y a des vrais saints dans le protestantisme, des vrais martyrs. C'est ce que le pape François appelle l'œcuménisme du sang. Dans les chrétiens d'Orient, par exemple, on va arrêter là, mais dans les chrétiens d'Orient, les coptes, par exemple, il y a ce qu'on appelle les monophysites. Les monophysites, ça veut dire quoi ? Ils ne croient qu'il n'y a qu'une seule nature dans le Christ. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les pré-calcédoniens. Alors c'est avant le concile de Chalcédoine qui a défini les doubles natures dans le Christ supportées par la personne du Verbe. Et les coptes font partie des pré-calcédoniens. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez quelqu'un qui ne va pas tout de suite, alors que les chrétiens d'Orient sont menacés, aller au secours? Personne. Oh non, mais vous êtes presque calcédonien. Bon. Voilà, il y a des choses qui sont remises en perspective par la persécution. De même, les protestants, je pense en Corée, etc., payent un très lourd tribut de Corée du Nord. La Trinité, c'est le pays qui massacre le plus de chrétiens. Donc voilà, juste pour relativiser ces questions théologiques qui ont fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang, de dire qu'aujourd'hui, eh ben voilà, c'est un petit peu différent par la nature des choses et voilà, de sortir par le haut, mais humilions-nous quelque part, voilà, on en est là, et l'histoire aussi pèse dans nos relations, comme nos histoires personnelles pèsent dans nos relations de couple, voilà, on est aussi englué dans cette pâte humaine. C'est pour ça qu'on a besoin d'un salut.